C'est le direct qui se poursuit sur l'antenne de Graphite. On a été obligé de couper Leonard Cohen qui nous chantait Everybody Knows, mais c'est l'actualité qui domine évidemment, et même l'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Je m'appelle Jean-Noël et on retrouve là encore Carole. Bonjour Carole.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
Écoute, je suis un peu essoufflé, alors pas parce que nous sommes arrivés en retard, mais Enrique a cette, je dirais, ce côté un petit peu pervers d'Enrique que les auditeurs ne connaissent peut-être pas, c'est de nous mettre automatiquement des musiques qu'on est obligé de danser. En
exactement,
fait,
on était en train de danser.
Juste avant de reprendre avant évidemment l'antenne, on est un peu essoufflé, mais c'est pas sympa Enrique, je me vengerai bien évidemment. Alors Enrique, je n'avais pas noté que c'était ta 203e émission, donc t'as fait ta 200e bientôt, il n'y a pas longtemps alors. Bon, j'ai loupé ça, c'est dommage. En ce qui nous concerne, Carole, pour cette émission Biotine, nous allons fêter dans quelques jours les 15 ans de cette émission.
C'est passé
qui a démarré
vite.
En octobre 2008.
Oui.
Et donc,
je n'étais pas née.
Mais tu n'étais pas née radiophoniquement, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. À cette heure-là, on ne sait plus ce qu'il faut dire. Mais voilà, donc 15 ans d'émission, tout simplement parce que l'actualité n'arrête pas, là encore. Alors bien sûr, l'actualité scientifique de cette semaine, et cela va prendre une bonne partie de cette émission, ce sont bien sûr les prix Nobel qui ont été attribués cette semaine. Et donc on parlera des prix Nobel essentiellement scientifiques, bien évidemment. Et puis plein d'autres sujets dans cette émission. Au niveau de l'éphéméride, pas grand-chose, objectivement.
Autant il y a ne s'est rien passé.
Le 7 octobre n'est pas une grande journée. Alors si le premier brevet qui concerne le code-barre, ça a été déposé par des Américains, ça a été déposé en 1952. C'est quand même vieux finalement le code-barre. J'avais l'impression que c'était quelque chose de plus récent, mais ça date de 52. En 59, ce sont les premières photos prises de la face cachée de la Lune par une sonde soviétique. Et oui, déjà c'était la course à l'époque, bien évidemment. Et le premier vol du SpaceX Dragon, c'était en 2012 déjà. Tout ça passe très très vite. Naissance le 7 octobre 1885 de Niels Bohr. Ah, Niels Bohr, ça nous dit quelque chose. D'ailleurs, si vous avez vu il y a quelques semaines le film Oppenheimer, on le voit, Niels Bohr, parce qu'il a quand même un rôle assez important. C'était un physicien danois. Il est bien sûr surtout connu pour son apport dans la mécanique quantique. Il a reçu de nombreux honneurs. Il est notamment lauréat du prix Nobel de physique en 1922, Niels Bohr. Le décès en 1847 d'Alexandre Brongniart, scientifique français connu principalement pour ses travaux de minéralogie. Donc, toute la partie géologie et la géologie moderne lui doit beaucoup à Alexandre Brongniart. Il a été aussi directeur de la manufacture de Sèvres et il est l'un des fondateurs de la céramique moderne. Il a donné une classification des objets céramiques. Alexandre Brongniart, décédé un 7 octobre 1847. Voilà pour l'éphéméride qui est un petit peu pauvrouné. Mais ça n'est pas grave. Si vous souhaitez réagir en direct en nous envoyant des SMS 06 95 065 026 06 95 065 026. Mais donc l'actualité est assez dramatique, on le voit très bien en ce moment, ça touche des enfants, ça touche des personnes âgées, et on se doit évidemment d'en parler dans cette émission. Non, je ne te parle pas d'Arménie, Carole.
L'Arménie,
tout le monde s'en fout de ce qui se passe en Arménie, Carole. On voit très bien que l'actualité depuis plusieurs semaines est vraiment dramatique. On a même des députés qui osent à l'Assemblée nationale brandir comme ça des fioles avec des choses dedans qui font très peur, les punaises de lit. En fait, on ne fait que de parler des punaises de lit, des punaises de
lit. C'est déjà un bel exercice pour l'élocution.
Punaises de lit. On n'arrête pas de parler des punaises de lit. Et donc, du coup, fatalement, dans la revue de presse scientifique, eh bien,
on les retrouve.
On les retrouve parce que ça fait vendre, parce que ça fait peur. Carole, tu nous parles des punaises de lit, du coup, toi
exactement,
aussi.
Exactement, moi aussi, en fait, je ne suis pas du tout originale. Non, et je ne voudrais pas que nos auditeurs, se lancent également dans cette psychose actuelle. Hein. Il faut en effet prendre du recul. Donc là, c'est aussi l'objectif, ça va nous permettre de prendre du recul et de se rendre compte qu'en fait, on vit, nous, la lignée humaine, avec les punaises de lit depuis très, très, très longtemps. Donc c'est pour ça. Et c'est vrai que si on lit tout ce qui est anxiogène, à l'heure actuelle dans les articles. À un moment, on a l'impression qu'elles sont partout, alors que non, restons un petit peu plus mesurés. Donc moi, je vais vous parler justement de recherches qui ont eu lieu. C'est un article qui a été relié du coup dans Science Post le 6 octobre, donc hier, et qui nous parle en fait des punaises de lit pour nous dire qu'elles sont plus anciennes que ce qu'on pourrait penser, puisque des chercheurs en fait ont récemment utilisé l'ADN de plus d'une trentaine d'espèces pour créer la première généalogie complète de ces insectes. Et c'est là où on va parler de leurs résultats qui sont assez surprenants. Donc ils se sont intéressés justement aux punaises, mais eux pour essayer de reconstituer toute la lignée des différentes espèces, puisqu'il y en a en effet beaucoup. Donc là, à l'heure actuelle, évidemment, on a l'impression que ça y est, elles envahissent tous les espaces, les habitations, le débat public. Elles ont fait leur grand retour en fait en France après avoir disparu dans les années 50. Et en fait, on a l'impression là qu'on vit un peu la même situation que moi j'avais suivi à l'époque aux États-Unis en fait il y a 10 ans à peu près. Oui. Parce que c'était en effet, enfin on avait quasiment, en tout cas on disait qu'on avait quasiment éradiqué les punaises de lit, mais il y a eu des foyers qui sont repartis à New York. Et en fait, c'est à ce moment-là où les États-Unis se sont saisis du problème parce que chez eux, ça a commencé un petit peu à flamber. Et on a l'impression que, comme d'habitude, on a un petit peu un train de retard parce qu'en fait, quand on s'intéresse à ce sujet-là, ça fait longtemps que les punaises de lit sont chez nous. C'est juste que là, d'un coup, il y a une flambée alors que finalement, d'ailleurs, il y a pas mal de spécialistes, je me permets de faire cette petite aparté. Il y a pas mal de spécialistes qui sont sollicités en ce moment pour des articles, j'allais dire à tort et à travers, et qui disaient qu'en fait, pour l'instant, il n'y avait pas de preuves, par exemple, qu'il y en ait plus qu'en 2019. Donc déjà, il y a quelques années, elles étaient de retour, en fait. Simplement, on n'a pas pris des actions à ce moment-là, alors que ça aurait pu être pris aussi avant toute la période du Covid.
Objectivement, on en a toujours entendu parler ces dernières années. C'est juste parce que tu as eu 2-3 vidéos sur TikTok.
C'est ça. C'est ça.
Non mais c'est tout.
Par contre, que ce soit un problème depuis, j'allais dire justement la dernière décennie, c'est vrai. Qu'il faille le prendre en charge, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment. Alors d'un coup, là, je regardais un article aussi qui parlait des recherches sur Google et de comment ça s'auto-alimentait. C'était assez intéressant.
Bien sûr.
Il y a un pic qui est énorme. Mais en fait, quand même se rendre compte justement un petit peu de la recrudescence, il y a un rapport de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, donc l'ANSES, qui a été publié au mois de juillet, qui montre qu'en fait, les punaises auraient infesté un foyer français sur 10 entre 2017 et 2022. Donc oui, du coup, il y a une recrudescence. Évidemment, surtout dans les grandes villes, dans les endroits où il y a beaucoup de contacts, de passages. Hein, on sait comment justement elles se diffusent. Voilà. Et on a maintenant le gouvernement qui s'en saisit et qui a tenu une réunion interministérielle hier sur le sujet. Mais voilà, ce que moi je voulais dire aujourd'hui sur l'antenne, c'est que leur présence, elle ne date pas d'hier, qu'on sait depuis longtemps que les punaises de lit, en fait, existaient déjà pendant l'Antiquité, et on va voir que même avant, puisque leurs nuisances, en fait, sont déjà mentionnées dans les écrits de l'ancienne Grèce, de l'ancienne Égypte et de la Rome antique. En réalité, elle serait encore plus ancienne. Donc pour parvenir à ces découvertes-là, c'est des chercheurs de l'Université technologique de Dresde, en Allemagne, qui se sont intéressés au sujet et qui ont dû surmonter différents obstacles, puisque donc, de nombreuses espèces de punaises de lit vivaient dans des endroits très difficiles d'accès, comme les profondeurs des grottes où résident les chauves-souris. Parce que j'ai en effet trouvé plusieurs articles qui mentionnent leur cohabitation avec les chauves-souris. Dans le cadre de leurs travaux, l'équipe a ainsi collecté des milliers de spécimens pour finalement comparer l'ADN de 34 espèces. Alors, comment est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont estimé les taux de mutation pour calculer le moment où les punaises de lit sont apparues pour la première fois et quand elles se sont diversifiées. Les chercheurs ont alors découvert que ces insectes existaient bien avant toute observation de chauves-souris. Pour rappel, le plus ancien fossile de chauves-souris connu, il n'a que 64 millions d'années, tandis que les premières punaises de lit, et attention, remonteraient à 115 millions d'années, soit l'époque du Crétacé. D'après l'étude, il semblerait également que ces premières punaises de lit aient évolué à partir d'un insecte ancestral qui était lui aussi déjà un suceur de sang. Certains chercheurs pensaient auparavant que le sang des mammifères n'était arrivé justement au menu des punaises que bien plus tard, après que les punaises de lit se soient déjà séparées de leurs ancêtres. Donc apparemment, c'est pas le cas, elles se nourrissaient déjà de sang en fait il y a très très longtemps. Alors, si maintenant on s'intéresse, parce que le sang des mammifères, ok, mais justement le sang des humains, notre cohabitation avec elles, ce nouvel arbre généalogique, en fait, il bouleverse les idées reçues sur le rapport entre les punaises de lit et les humains. Deux espèces d'insectes, Cimex lectularius et Cimex et Hémiptérus tropical sont connus pour se nourrir de notre sang. Jusqu'à présent, on pensait que ces insectes issus d'un ancêtre commun avaient divergé il y a environ 1,6 million d'années, lorsqu'Homo sapiens s'est séparé d'une ancienne lignée humaine, Homo erectus. En réalité, cette nouvelle étude, elle montre qu'elles se sont séparées il y a 47 millions d'années. Donc on passe quand même d'une première hypothèse qui était 1,6 million à 47 millions, ce qui signifie qu'elles ont toutes deux dû passer indépendamment à un régime alimentaire humain. Donc voilà, elles existaient et hop, toutes les deux elles se sont mises à se nourrir de sang humain, ces deux espèces de punaises de lit. Donc depuis, une ou deux autres espèces de punaises de lit seraient passées à des hôtes humains. Ensemble, les preuves suggèrent qu'une nouvelle espèce de punaises de lit arrive à conquérir en fait les humains environ tous les 500 000 d'années. Mais ce que ça suggère également, du coup, ces travaux, c'est que compte tenu des contacts toujours croissants entre les humains, le bétail et la faune sauvage, évidemment, on imagine que c'est potentialisé par tous les voyages, maintenant tous les déplacements qui n'étaient pas aussi rapides il y a déjà décennies, c'est quand même très très récent, là, tous les voyages en avion, etc. Cela ne prendra peut-être même pas 500 000 d'années pour qu'une autre punaise de lit commence à sucer elle aussi le sang humain. Donc attention.
06 95 065 026 si vous souhaitez réagir en direct. Alors effectivement, Carole et moi préparons chacun notre émission, chacun de son côté, et après voilà, on compare un petit peu ce qu'on a comme article, et j'avais donc aussi moi des articles sur les punaises de lit. Tu m'étonnes,
oui,
c'est l'actualité du monde, donc il n'y a que ça. Des compléments par rapport à ce que tu as dit, par exemple il y a, ça y est, j'ai perdu la page malheureusement, on a retrouvé un fossile, entre guillemets, en tout cas, on a retrouvé dans de l'ambre de oui. Birmanie, et ça daterait de 99 millions d'années, ce qui a été la première punaise de lit avec des ailes à l'époque.
Quelle horreur. C'est-à-dire qu'à l'époque, oui, elles se déplaçaient. Heureusement qu'elles les ont perdues.
Avec des ailes. Alors, pour en savoir un petit peu plus sur cet insecte, donc effectivement, c'est un insecte qu'on appelle hématophage. Donc hémato, du sang, phage, qui aime bien le sang. Donc c'est donc bien un insecte qui boit du sang. C'est un insecte qui a une grande fécondité, 200 à 500 œufs par femelle, et une capacité de résister à la privation de nourriture plus de 3 mois sans se nourrir, voire plus.
C'est bien le problème, justement.
C'est coriace.
Oui, oui. Et c'est pour ça que ça peut rester, c'est-à-dire que même si on élimine les adultes, et même certains adultes qui seraient qu'on ne verrait pas, mais du coup, ça peut rester sans s'alimenter. Et c'est pour ça que ça va rester dans les tissus, dans les literies, etc.
Leur mode de reproduction est assez particulier, ça va te plaire. Les mâles sont plutôt agressifs, ils pratiquent un mode de reproduction qui consiste à injecter directement les spermatozoïdes dans l'abdomen de la femelle avec un organe seringue. C'est-à-dire que ça ne passe pas par les voies génitales, c'est directement dans le ventre.
C'est plus efficace, efficacité.
C'est de l'efficacité. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle l'insémination. J'aime bien le terme d'insémination traumatique.
Non, mais c'est vrai qu'on ne retrouve pas ça chez un grand nombre d'espèces. J'imagine que c'est quand même assez particulier.
C'est assez particulier, bien sûr, évidemment. Ce que l'on voit aussi un petit peu, c'est comment éradiquer cela. Alors, c'est pas nécessairement simple. Il y a plusieurs articles qui sont intéressants, qui expliquent que quelque part, comme il peut y avoir comme une honte, il y a un manque d'informations. Évidemment, si un hôtel commence à dire, alors j'ai des punaises de lit, ne venez pas, son chiffre d'affaires est totalement en chute libre. Donc, il va rien dire. Pareil en tant que locataire, propriétaire ou autre. Donc, ce manque d'informations fait qu'il y a un manque de prévention également. Et ce qui fait aussi que l'on peut avoir une explication de ce relatif retour, parce que quelque part ça n'a jamais été un retour, elles ont toujours été là, mais en tout cas un retour dans l'actualité ou en tout cas dans la sphère médiatique, bien sûr. Alors, les stratégies de lutte, elles existent, Il y a des insecticides qu'on va appeler biologiques, notamment l'utilisation d'huiles essentielles qui semblent être efficaces. Mais on a aussi, j'ai découvert ça, des chiens qui sont dressés.
Alors oui, et en plus, c'est pas parce que moi je me dis, mais c'est l'élite, je sais pas, des entreprises d'intervention contre les punaises de lit. Non, ça apparemment c'est beaucoup plus courant. Donc on peut même en tant que particulier faire appel à ce genre d'entreprise. Et justement, en fait, ça évite de balancer de l'insecticide. Insecticides pour rien, parce qu'elles sont, tu as peut-être en parlé du coup, mais devenues très résistantes.
Bien sûr, mais en fait, l'une des bases de la problématique, elle est là, c'est qu'elles deviennent résistantes à tous ces produits insecticides. Donc on va avoir des produits insecticides encore beaucoup plus forts et elles vont devenir encore beaucoup plus résistantes et ainsi de suite. Et alors par contre, toi tu en bouffes de l'insecticide en même temps, c'est ça qu'il ne faut pas oublier.
C'est ça le problème, oui, tout à fait.
Les moyens, peut-être un petit peu plus doux, entre guillemets, c'est le lavage à 60 degrés minimum, c'est la congélation, c'est la chaleur au-dessus de 45 degrés, par exemple, lors du repassage. Ils n'aiment pas trop. Ils aiment bien les endroits chauds, mais chauds tempérés. Ils sont comme nous, en fait.
Oui,
ils n'aiment pas la canicule.
Si c'est trop chaud, si c'est trop froid, ça ne va pas.
Ça ne va pas.
Alors, par contre, il faut acheter des... Parce que du coup, moi, j'ai lu toutes les directives, parce que le gouvernement s'est rattrapé. Hein, donc maintenant, il a mis en ligne, en fait, tout un protocole. Alors, si on le lit, on ne dort plus. Mais en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui sont difficilement réalisables. Il faut s'acheter un grand congélateur hein, pour pouvoir...
bien sûr. Alors, il y a aussi des méthodes traditionnelles qui consistent à utiliser des plantes collantes qui peuvent être un petit peu comme des adhésifs pour piéger les insectes. Et puis, on sait qu'il y a aussi des substances plutôt poudreuses qui vont rebuter ces insectes. Par exemple, de la diatomite ou tout simplement de la farine. Et on explique que si on met le lit avec les quatre pieds du lit dans la farine, eh bien, le lit est plutôt protégé. Enfin, oui et non, parce que ça n'empêche pas les punaises de tomber du plafond. Donc en fait, c'est en pleine nuit, ça doit être hyper sympa. Donc il y a plusieurs méthodes voilà, qui existent, mais c'est pas totalement. En fait, c'est les bonnes méthodes de traitement avec des produits assez compliqués qui semblent être le plus efficace, le plus onéreux également. Mais voilà, c'était intéressant d'en savoir un petit peu plus sur cette punaise de lit parce qu'effectivement, on ne sait pas trop de choses, mais on a une espèce de panique. On peut aussi utiliser, alors j'aime bien dans cet article que j'ai trouvé, qui nous dit comment on peut éradiquer les punaises de lit. Il y a des insectes qui mangent les punaises de lit.
Alors lesquels ?
Les araignées.
Ah oui, mais du coup, on peut se faire... c'est-à-dire qu'on récupère les araignées et on les disperse chez soi.
Tu les disperses dans ton lit, comme ça tu n'as plus de punaises de lit. Alors, bien sûr, tu as des araignées, les scolopendres aussi.
Super.
peuvent aimer ça. Mais voilà, effectivement, il y a aussi le cercle vertueux...
De la chaîne alimentaire.
La chaîne alimentaire. On les mange aussi, ces punaises de lit. Enfin, nous, non. Quoi qu'on n'en sait rien.
En apéro, peut-être
en
maintenant.
En apéro, ça peut être très bien, des fois on n'en sait rien, un peu grillé légèrement. Ah ouais. Nous souhaitons un très bon appétit.
Exactement.
À nos auditeurs.
C'est l'heure.
Nous écoute sur l'antenne de Graphite 06 95 065 026. C'était donc le grand focus sur les punaises de lit. Cette semaine, l'actualité, comme je vous l'ai dit, c'était l'attribution des prix Nobel. Alors, ça a démarré lundi avec le prix Nobel de médecine qui a été attribué conjointement à la Hongroise Kathalin Karikó et à l'Américain Drew Westman pour leurs avancées dans le domaine des vaccins à ARN messager. Vaccin à ARN messager, ça me dit quelque chose.
Je crois qu'on en a déjà parlé dans l'émission.
On en a parlé plus d'une fois. Bien sûr, ce sont ces vaccins qui ont été assez décisifs dans la lutte contre le Covid-19. Et donc ces deux chercheurs ont été récompensés pour leur découverte concernant les modifications des bases nucléiques ayant permis le développement de vaccins ARN messagers efficaces contre le Covid-19. C'est ce qu'a annoncé le jury du prix Nobel. Donc deux personnes récompensées, Kathalin Karikó, 68 ans. Elle a occupé jusqu'en 2022, l'année dernière, le poste de vice-présidente chez BioNTech. Ah, BioNTech, on en a entendu parler aussi pas mal. BioNTech, c'est cette entreprise qui avait développé avec Pfizer ce fameux vaccin vaccin ARN messager contre le Covid-19. Alors ensuite, Cataline Carico, elle est depuis consultante auprès de cette entreprise. Elle est aussi professeure à l'université de... je ne sais pas comment ça se dit, je veux dire ce que j'aide. En tout cas, c'est en Hongrie et à l'université de Pennsylvanie. Là, c'est plus facile à dire, bien sûr. Le deuxième, Drew Westman, 64 ans, autre spécialiste reconnu de la technologie ARN messager et lui, donc aussi professeur à l'université de Pennsylvanie. Et donc, ce sont deux collègues de longue date qui ont déjà remporté plusieurs récompenses prestigieuses pour leurs recherches, dont le prix Lasker Award, c'était il y a 2 ans. On considère souvent ce prix comme étant un précurseur du Nobel. Le jury du prix Nobel explique donc que grâce à leur découverte révolutionnaire, les lauréats de cette année ont fondamentalement changé notre compréhension de la manière dont l'ARN messager interagit avec notre système immunitaire. Ils ont contribué au développement à un rythme sans précédent de vaccins durant l'une des plus grandes menaces pour la santé humaine des temps modernes. C'est ce qu'indique le communiqué. Alors, ce qu'il faut savoir, et on l'a déjà dit à l'époque, la technologie ARN messager, c'est pas une technologie récente. Elle date pas de 2020, en fait. Elle date pas au moment du Covid. Les découvertes décisives, elles remontent à 2005, quand même. Cette technique permet d'insérer dans l'organisme des extraits d'instructions génétiques, parce que l'ARN messager va être un support d'informations génétiques. Et donc, on peut essayer de commander, entre guillemets, nos cellules pour qu'elles puissent se défendre face à un virus. Les deux chercheurs ont découvert comment produire cet ARN messager in vitro, donc vraiment à l'intérieur du corps humain, à l'intérieur des cellules, et de ne pas déclencher une réaction du système immunitaire lorsqu'on les introduit dans l'organisme. Parce qu'évidemment, il ne fallait pas non plus qu'il y ait une réaction qui soit un petit peu trop violente avec cette introduction d'ARN messager. Ce qui n'a pas été le cas, c'est-à-dire qu'il y a eu une campagne de vaccination à très très grande échelle, on n'a quand même pas vu en proportion hyper importante des réactions du système immunitaire face à l'introduction de ces vaccins. Les premiers vaccins ARN messager contre le Covid-19 ont été fabriqués en 2020 par les laboratoires Pfizer, BioNTech et Moderna. Alors, les réactions, c'est toujours intéressant. La réaction de Cataline Carico, elle dit c'est incroyable. Elle a été contactée par la radio suédoise SR et ses premières pensées, elles sont allées vers sa mère. Elle expliquait il y a déjà 10 ans, ma mère écoutait les annonces du comité Nobel alors que je n'étais même pas encore professeur. Et elle me disait, ma mère, peut-être que ton nom sera prononcé, j'écouterai quand ils feront cette annonce. Et puis donc, tous les ans, elle écoutait sa mère. Elle est décédée il y a 5 ans, malheureusement, à l'âge de 89 ans, et donc elle ne l'a pas écouté. Peut-être, dit-elle, Cataline Carico, qu'elle l'a peut-être écouté depuis le ciel. Drew Westman, lui, il croit que c'était un canular. Sa collègue, qu'il appelle Cathy affectueusement, l'appelle, lui annonce la nouvelle. Et en fait, il ne réagit pas. J'étais assis sur mon lit, j'étais en train d'attendre. Nous nous demandions si quelqu'un était en train de nous faire une farce. C'est vrai que c'était... quelque part, cette décision du prix Nobel, elle est intéressante à deux titres. Premièrement, on a très souvent des récompenses de prix Nobel pour des découvertes d'il y a 10, 15, 20, 30, 40 ans. Et ce sont des personnes très vieilles de 80 ans qu'on récompense très tardivement. Là, quelque part, même si la technologie n'est pas récente, on sait que l'application à grande échelle, elle date d'il y a 3 ans. Donc on récompense quand même assez rapidement les chercheurs, et je trouve que c'est une démarche assez intéressante. La deuxième démarche, elle est évidemment politique, parce qu'il faut quand même pas se leurrer. Le prix Nobel, que ça peut être un prix Nobel d'économie, un prix Nobel de littérature ou un prix Nobel de la paix, est un prix Nobel politique. Alors quand je le dis, c'est pas du tout négatif, c'est juste un fait. Et là, je le prends aussi un peu comme ça, c'est-à-dire que on a tellement écouté de balivernes, pour ne pas dire de conneries, sur l'ARN messager, en tout cas sur ces vaccins, qu'à un moment le prix Nobel, je pense, s'est dit, il faut arrêter, je vais être très vulgaire, il faut arrêter les conneries, mes enfants. Et là, à un moment, il faut quand même que la science puisse être décisive dans cette lutte contre le Covid-19, et c'est l'ARN messager qui est la réponse. Et le prix Nobel, en proclamant 3 ans après ce Covid, le prix Nobel de médecine l'attribuant justement à ces deux chercheurs, ces deux découvreurs, quelque part est un vrai message politique contre les complotistes de tout poil. Voilà, c'est dit. On écoute un peu de musique, Carole ?
Allons-y.
Et on a une playlist, et une playlist et... qui s'appelle Récent. Donc dans Récent, tu te dis ça va être récent. Et en fait, on va écouter Serge Gainsbourg, The Serge Gainsbourg Experience avec Initials BB. d'or, pardon, c'était, je sais pas, tout s'était éteint d'un seul coup, je sais pas pourquoi. J'aime pas quand ça s'éteint comme ça, ça me fait peur. On écoute donc The Serge Gainsbourg Experience sur l'antenne de Graphite. On va poursuivre l'actualité vis-à-vis des prix Nobel et des prix Nobel un peu particuliers également. C'est tout de suite après sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
One night, whilst I was sombering in some English pub in the heart of London, poring over a copy of Monster Love by Pals, a vision came to me in the seltzer water. As the Emperor's medals shone at her waist in bronze and gold, the platinum calves in a cold circle, the mark of the slave on each finger. The inner shells, the inner shells, the inner shells, BB. The inner shells, the inner shells, BB. Right up to the top of her thighs, she's in boots, and it's like a chalice to her beauty. She isn't wearing anything apart from a little essence de guerlain in her hair. The inner shells, the inner shells, the inner shells, BB. The inner shells, the inner shells, the inner shells, BB. At every movement you can hear the little silver bells at her wrist. Shaking her rattles, she moves forward and pronounces this word, Almeria. The inner shells, the inner shells, BB. The inner shells, the inner shells, the inner shells, BB. The inner shells, the inner shells, the inner shells, BB.
...12h30 sur Graphite.
Et là, c'est là qu'on voit que quand même Serge Gainsbourg est hyper moderne, plus de 30 ans après sa mort. The Serge Gainsbourg Experience avec Initials BB sur l'antenne de Graphite 06 65... Non, 06, j'allais vous donner mon numéro de portable perso. 06 95 065 026 06 95 065 026 si vous souhaitez bien sûr réagir.
Ça nous fait
en direct,
toujours plaisir de recevoir des SMS, donc c'est pour
bien
ça.
Sûr. Ah oui, exclusivement par SMS.
Oui.
Mais n'hésitez pas, 06 95 065 026, on a parlé des prix Nobel, on va en reparler, mais on va parler aussi des prix...
Les IG Nobel, les Ig Nobel.
Les Ig Nobel ou les Ig Nobel. J'ai jamais su comment fallait le dire.
C'est une très bonne question.
Avec PJ, on les appelait les Ig Nobel, en fait. Parce qu'on aimait bien ce côté ignoble.
C'est vrai. Bon, là, évidemment, il y a un côté beaucoup plus humoristique, on le rappelle. Alors, je vais dire les Ig Nobel. On est d'accord là, oui.
Tu peux dire les Ig Nobel,
les,
c'est possible.
Les Ig, les Ig Nobel, les Ig. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à dire les Ig Nobel. Bon, bah, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de prix humoristiques qui sont décernés chaque année depuis 1991 lors d'une cérémonie tenue à Harvard. Et c'est décerné donc pour des recherches scientifiques qui bien souvent sont surprenantes au premier abord, mais en fait elles suscitent également la réflexion. Donc c'est en fait un contrepoint évidemment assez amusant au prestigieux prix Nobel. Mais à chaque fois, c'est des vraies recherches scientifiques. Et justement, le but, c'est de nous faire réfléchir. Donc, c'est pas des recherches qui sont vaines, je le précise. Donc là, alors moi, j'ai tout un florilège. Et on peut commencer peut-être du coup par le prix de médecine. Comme ça, on fait un petit peu écho. Et puis après, je te laisserai repartir sur les prix Nobel. Et puis bon, on pourra, j'allais dire, se renvoyer la balle, faire un petit ping-pong prix Nobel, IG Nobel. Donc le prix de médecine, il revient cette année à Christine Pam Bobak Edayati, Kiana Hachemi, Ella Ksuka, c'est une grosse équipe, donc là c'est dur à dire. Je continue, il y en a encore plusieurs noms. Tiana Mamagani, Margit Juhasz, Jamie Vikanizer et Natasha Mezinkowska. Donc
mais
on sent bien que c'était assez, beaucoup de pays concernés et ils se sont unis pour en fait déterminer s'il y avait un nombre égal de poils dans chacune des deux narines d'une personne. Oui, donc comme ça on peut se dire pourquoi. On va le voir. Et donc en fait, au départ, cette étude, elle a été déclenchée par un intérêt pour la pelade, alors qu'on appelle scientifiquement l'alopécie areata. On connaît des gens, d'ailleurs même célèbres, qui sont touchés. C'est une affection dermatologique caractérisée par la perte soudaine et inattendue de cheveux, généralement sur le cuir chevelu, mais elle peut également affecter d'autres parties du corps, y compris les cils, les sourcils et les poils du nez.
Donc, il y a un premier ministre qui est concerné.
On pense à lui. Mais en fait, donc normalement, elle ne présente pas, j'allais dire, une gravité plus forte que ça. Mais c'est sûr qu'on est entre guillemets pas habitué. C'est pas évident de vivre sans sourcils, sans cils, enfin surtout sur les parties en fait apparentes. Mais ça touche aussi les poils du nez. Et là, ça a évidemment potentiellement un impact puisque on n'a pas des poils dans le nez pour rien. En ce qui concerne le manque de poils dans les narines, les chercheurs ont noté que de nombreuses personnes souffrant de cette maladie sont plus sujettes aux infections des voies respiratoires supérieures, aux allergies et à la sécheresse. Bah oui, parce que les poils du nez ont plusieurs fonctions et évidemment vont être protecteurs des voies respiratoires. Donc, c'est à ce moment-là que ces chercheurs se sont aperçus que personne n'avait encore pris le temps de compter. C'est là où tu dis « Ah mais attendez, personne n'avait compté le nombre moyen de poils du nez chez l'homme. » Il s'agit pourtant d'une information importante pour évaluer les effets de leur absence. Ces effets pourraient avoir évidemment des impacts sur la qualité de vie des patients. Pour ce faire, les chercheurs ont utilisé une vingtaine de cadavres. Bon, et là, on imagine que le protocole expérimental était assez sympa pour compter, du coup, le nombre de poils dans chaque narine. Alors, résultat, attention, le nombre moyen de poils du nez par narine se situe, et c'est hyper précis comme résultat, entre 120 et 122. Voilà, ça c'est la chute. Mais
pourquoi ils vont récupérer une vingtaine de cadavres? Ils peuvent
pour
avoir
faire une des, moyenne.
Ah oui. Ils peuvent avoir des milliers de personnes vivantes.
Je crois que c'est pas possible. C'est-à-dire que là, j'imagine qu'il a fallu, peut-être qu'il a fallu ouvrir la narine pour vraiment se rendre compte. Enfin, je ne sais pas, j'extrapole, mais non, je pense que c'était compliqué à faire sur les personnes vivantes. Le comptage devait être très long.
Je ne sais même pas quoi dire.
J'ai pas de détails sur le protocole. Je chercherai.
Oui, c'est vrai. Pourquoi les cadavres? Oui, t'as raison, c'est un peu intrusif.
Je pense que c'est très compliqué de le compter sur. Ouais.
Ok, bon, bah, très bien. Bon, alors je n'ai aucune transition et là je vais me lancer dans le prix Nobel de physique, le vrai prix Nobel. Et on va monter dans le temps en 1905. Einstein publie deux articles dont l'un introduit le concept de quanta de lumière, c'est ce qu'on appellera les photons en 1926. Et puis un autre article qui donne la description théorique du mouvement brownien. En 1908, 3 ans après, le français Jean Perrin se sert de ce dernier travail d'Einstein, pour démontrer l'existence des atomes. En 1917, en se basant sur sa théorie des photons et l'atome quantique de Niels Bohr, Einstein est conduit à postuler les principes sur lesquels reposent les lasers. Et les lasers, le premier qui fonctionne dans le visible, aura sa naissance, entre guillemets, en 1960. Ça, c'est l'historique des lasers, très simplifié bien évidemment, parce que tout le monde connaît les lasers aujourd'hui. Mais ce qui est peut-être un petit peu moins connu, c'est que depuis à peu près une vingtaine d'années, le début des années 2000, les physiciens sont entrés dans un domaine de recherche où des impulsions laser ultra courtes ont ouvert la possibilité de pouvoir photographier les mouvements des électrons dans les atomes et dans les molécules, notamment lorsqu'il y a une réaction chimique. Ça permet de mieux comprendre justement cette réaction chimique et ça permet aussi de déboucher sur des applications pratiques nouvelles, voire totalement révolutionnaires. Tu m'étonnes, si on arrive à prendre entre guillemets des photos des électrons et que l'on puisse comprendre un petit peu le déplacement de ces électrons pendant une réaction chimique, c'est totalement révolutionnaire bien évidemment, et ça c'est grâce au laser. Et donc l'Académie royale des sciences de Suède ne s'est pas trompée en attribuant donc le prix Nobel de physique aux pionniers de ce qu'on appelle aussi les lasers attosecondes. Justement, c'est ces lasers qui ont des impulsions ultra courtes, et il y a deux chercheurs français, cocorico, Anne L'Huillier et Pierre Agostini, et ainsi et aussi un collègue physicien austro-hongrois, Ferenc Krauss. Alors, le communiqué de l'Académie royale des sciences de Suède explique que l'attribution du prix Nobel s'est donc faite, je cite, pour les méthodes expérimentales qui génèrent des impulsions lumineuses attosecondes pour l'étude de la dynamique électronique dans la matière. Ok, donc là, t'as rien compris, mais c'est le communiqué du prix Nobel. Bref, l'idée, c'est que les contributions des lauréats ont permis d'investiguer des processus si rapides qu'ils étaient auparavant impossibles à suivre. Et donc, la présidente du comité Nobel de physique explique « Nous pouvons désormais ouvrir la porte du monde des électrons. La physique attoseconde nous donne l'opportunité de comprendre les mécanismes qui sont régis par les électrons. La prochaine étape consistera à les utiliser. » Donc, on comprend très bien que ça va être une vraie découverte et c'était vraiment quelque chose d'assez fondamental. Alors, il existe des applications potentielles dans de nombreux domaines différents. En électronique, par exemple, il est important de comprendre et de contrôler le comportement des électrons dans un matériau. Ces impulsions peuvent également être utilisées pour identifier différentes molécules, notamment dans les diagnostics médicaux. Et donc, on voit très bien les applications qui peuvent être mises en place grâce à cette découverte. Alors, cocorico, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression qu'on n'a pas énormément entendu parler de ces prix Nobel de physique qui sont quand même français, enfin, qui ont travaillé
en France.
Anne L'Huillier, elle est née en 1958 à Paris. Elle a décroché l'agrégation de médecine en sortant de l'école normale supérieure de Fontenay-aux-Roses et elle a donc passé un doctorat en physique à Paris, Université de Paris, et elle a travaillé au centre CEA de Saclay, le centre de l'énergie atomique. Elle est depuis professeure à l'Université de Lund en Suède et elle est lauréate depuis des années de nombreux prix, dont le prix Wolf de physique. Alors le prix Wolf de physique, c'est un peu l'antichambre du prix Nobel. C'est un peu le passage, si tu as le prix Nobel, il faut que tu passes par le prix Wolf, et elle l'a fait. Anne L'Huillier devient la cinquième femme prix Nobel de physique, après Marie Curie, bien sûr, Maria Goeppert-Mayer, Donna Strickland et Andrea Ghez. Son compatriote est donc co-lauréat Pierre Agostini. Lui, il a passé son doctorat en 1968 à l'université d'Aix-Marseille. Et il a travaillé, lui aussi, en optique quantique au CEA de Saclay, toujours ce centre de l'énergie atomique. Il est désormais professeur à l'université de l'Ohio aux États-Unis. Donc on peut dire que Anne L'Huillier et Pierre Agostini ont reçu leur prix Nobel à partir de leurs travaux qui ont été initiés et poursuivis au CEA. Et donc le CEA a fait un énorme communiqué cette semaine en disant oui, le CEA a le prix Nobel. Bon, c'est pas comme ça qu'ils l'ont dit, mais presque un petit peu sous-entendu, c'était ça. Et enfin le troisième, Ferenc Krauss, et il est hongrois d'origine. Il a étudié l'électronique à l'université de Budapest. Et lui, il n'est pas passé par la case de Saclay, mais il est passé par la case de la direction. Il était directeur de l'Institut Max Planck. Et l'Institut Max Planck en Allemagne est évidemment un haut lieu de la recherche scientifique. Donc voilà, au niveau du prix Nobel de physique.
Et moi, je voulais ajouter quelque chose parce que j'ai vu forcément pas mal d'infos passer là-dessus. Et un article de Pierre Agostini qui était du coup interviewé et qui parlait de la difficulté, on le sait, en France, alors parce que le CEA fait cocorico et certainement que, bien sûr, on veut rien lui retirer. Mais il expliquait qu'en fait, c'était très difficile de continuer après l'âge légal de départ à la retraite. Et justement, en gros, à 61 ans, parce qu'en France, on ne pouvait plus vraiment continuer, on lui a dit au revoir. Et il a réussi à prolonger sa carrière en fait aux États-Unis. Voilà, c'est pour ça qu'il est justement allé dans l'Ohio et qu'il a un bureau d'ailleurs, même là, qui lui est toujours, j'allais dire, destiné si jamais il revient. Parce que là, ça y est, je crois qu'il est vraiment quand même, il se met à la retraite, mais il travaille toujours, il a travaillé en tout cas, il a prolongé sa carrière aux États-Unis et c'est ça qui lui a permis d'aller quand même jusqu'au prix Nobel.
Il y a eu un début de polémique un petit peu en disant est-ce qu'on ne fait pas fuir les scientifiques français ?
En fait, il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème des financements, énorme problème pour des scientifiques qui vont être beaucoup plus jeunes et qui déjà, dès les post-docs, dès ces étapes-là, partent à l'étranger. Mais on voit que finalement, même pour des chercheurs qui ont fait toute leur carrière en France, il peut y avoir aussi des départs tardifs, j'allais dire, à l'étranger.
Oui. Et donc c'est une vraie question. Donc,
ouais,
effectivement,
vraie question.
Tu as raison, il y a eu quelques articles qui abordaient ce sujet-là. Et fort heureusement, il n'y aura jamais de réponse. Mais c'est autre chose.
Mais c'est intéressant. Voilà.
C'est un peu dommage.
Oui, ouais, tout à fait. Alors moi, je peux rebondir ou...
Eh bien, rebondis.
Je rebondis.
Vas-y, il y a tellement.
Et je reviens avec mes Ig Nobel, alors, on va les appeler comme ça. Donc cette fois-ci, je peux parler de celui de génie mécanique, qui est revenu pareil à une équipe, j'allais dire, de gens originaires de différents pays, puisqu'on a Tefai Yap, Jen Liu, Hanoop Rajapan, Trevor Shimokuzu et Daniel Preston. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle a été leur bonne idée? C'est d'utiliser en fait des araignées mortes, parce que bon, j'ai senti qu'on a parlé des araignées tout à l'heure, j'avais envie de rebondir dessus, comme outil de préhension mécanique. Alors ça, j'imagine, chers auditeurs, que vous l'avez remarqué, les araignées mortes, elles ont tendance à recroqueviller leurs pattes. Hein, quand il nous arrive parfois de tuer une araignée parce qu'elle est chez nous et qu'elle nous dérange, on voit qu'après elle est toute recroquevillée. Or, il semblerait que ce corps sans vie puisse avoir des applications utiles en robotique. Donc des scientifiques, là je les ai cités, hein, de l'université Rice, ont en effet exploité ce mécanisme de locomotion inhabituel chez les araignées loups. Donc là ils ont pris une espèce spécifique d'araignée pour créer des sortes de pinces mécaniques. Donc c'est plutôt quand même original, hein, puisque ces arachnides, une fois donc montées, hein, j'allais dire, sur un dispositif là qui fait donc une pince, puisqu'elles sont mortes, elles pouvaient soulever de manière fiable des objets pesant plus de 1,3 fois leur poids corporel, tout en exerçant une force de préhension maximale de 0,35 millinewton. Ces pinces pouvaient également tenir jusqu'à 1000 cycles ouverture-fermeture avant que l'usure des articulations ne provoque la rupture du corps. Donc en fait, c'est un espèce de recyclage des araignées mortes sous forme de pinces, et de pinces donc très résistantes.
Et du coup, on appelle ça, cette branche de la robotique, on appelle ça la nécrobotique.
Alors ça, je ne savais pas.
Cherchais justement pendant ton article la vraie définition de nécrobotique, parce qu'on voit bien nécro, donc c'était côté un peu mort. Mais du coup, voilà, on s'adapte au niveau de la robotique avec ça, effectivement. Un autre ?
Alors, un autre peut-être, avant, toi tu lui as parlé du prix Nobel de chimie.
Oui, je vais parler après du prix Nobel de chimie.
Donc moi je peux parler de l'Ig Nobel de chimie-géologie. Cette année, c'est couplé, qui est revenu, là il est visiblement tout seul, mais je suis certain qu'il a travaillé avec d'autres personnes, à Jan Zalaziewicz, qui a expliqué en fait pourquoi de nombreux scientifiques aiment lécher les pierres. Moi, je crois que c'était assez intéressant. Alors, ça ne m'est jamais arrivé, hein, quand j'étais.
Mais d'où vient cette rumeur ?
Alors, non, mais c'est très sérieux, puisque certains géologues ou paléontologues ont une habitude particulière, lécher les roches. Donc, c'est vrai. Hein. C'est vrai, il y a même des photos, si vous regardez sur Internet. Ces chercheurs vous diront que c'est un très bon moyen de tester si une roche est une roche ou un morceau d'os fossilisé. C'est vrai que c'est rapide, on l'a dans la main, on sait, voilà, roche ou fossile.
Le goût est pas le même.
Si c'est un os fossilisé, c'est surtout, c'est pire que ça. Si c'est un os fossilisé, apparemment, il aura tendance à coller à la langue. C'est plus qu'une histoire de goût, apparemment, c'est plutôt une histoire de réaction par rapport à la langue. D'autres scientifiques n'hésitent pas non plus à broyer certaines roches entre leurs dents pour déterminer la taille des grains et donc savoir si la roche contient de l'argile ou du limon. Donc ça, je pense que c'est quand même très très dangereux pour sa dentition et que les dentistes ne cautionnent pas cette technique. Et donc selon Zalaziewicz, qui a fait cette étude, ce goût pour la stratigraphie pourrait remonter à un ingénieur minier, arpenteur et minéralogiste autoproclamé du XVIIIe siècle, nommé Giovanni Arduino. Alors je ne le connaissais pas, mais on en a peut-être un jour parlé dans l'émission. Apparemment, ça daterait de lui, il aurait peut-être eu la première bonne, le premier peut-être à avoir léché une roche, et puis du coup maintenant les autres le font aussi.
Alors chacun ses pratiques comme il le souhaite. Nous ne jugeons pas
ici dans l'émission.
Le prix Nobel de chimie, le vrai prix Nobel de chimie 2023 a été annoncé mercredi. Il revient à Munji Bavendi. Il travaille aux États-Unis au MIT, le fameux institut de technologie du Massachusetts. On en parle souvent dans cette émission. Le deuxième, c'est Louis Bruce, université de Columbia aux États-Unis. On en parle souvent dans cette émission. Et le troisième, c'est Alexei Ekimov du Centre de technologie des nanocristaux aux États-Unis. On en parle un petit peu moins, mais on comprend que c'est aussi quand même un organisme qui a quand même assez...
Sérieux.
Oui, ça a l'air sérieux. Et donc, tous les trois ont obtenu le prix Nobel de chimie 2023. Ils sont récompensés pour leurs travaux sur les boîtes quantiques ou ce qu'on appelle les quantum dots également, si on veut bien parler américain. Mais nous, on va dire boîtes quantiques parce qu'on comprend mieux ce que c'est. En tout cas, on peut les appeler également les quantum dots. Alors, boîtes quantiques, si on a un petit peu quelques connaissances scientifiques, quantiques, ça fait plutôt penser à de la physique.
Oui, c'est ce que j'aurais
dit
au départ.
Et ils ont le prix Nobel de chimie. Donc on se dit, ils se sont trompés.
Ils ont mal lu.
Ils ont mal lu. Eh bien non, on est bien dans l'aspect chimie parce que ce sont des méthodes qui ont permis la découverte et le développement de ces boîtes quantiques qui ont été récompensées et ces méthodes sont des méthodes chimiques. Et donc c'est pour cela qu'ils reçoivent le prix Nobel de chimie. Il n'y a donc pas d'erreur. Alors pour y voir plus clair, Futura Science propose un article que je trouve assez intéressant parce qu'il explique un petit peu ce que c'est et à quoi ça consiste. On est déjà dans un monde de l'infiniment petit. Je t'emmène, Carole, dans le monde de l'infiniment petit, ce qu'on va appeler le monde nanométrique. Alors, le nanométrique, c'est une unité de mesure qui est vraiment encore plus petite que le millimètre. Donc, on est vraiment dans l'invisible à l'œil nu. Et dans ce monde, les choses ne se passent pas vraiment comme dans notre monde où nous sommes habitués à des unités de mesure un petit peu plus grandes. Et il faut en fait essayer de perdre confiance dans nos propres sens parce qu'on est un petit peu perturbé par ce qui peut se passer dans l'infiniment petit. En cause, eh bien, ce sont les effets quantiques qui vont intervenir sur des objets, sur des cristaux. Et ces effets quantiques ne concernent que quelques milliers d'atomes. C'est vraiment très, très petit. Alors, nos lauréats du prix Nobel de chimie, il y en a deux qui ont été récompensés pour avoir les premiers observé et créé les boîtes quantiques. C'était en 81 pour Alexei Ekimov et en 83 pour Louis Bruce. Et le troisième qui a été récompensé, c'est 10 ans après, Munji Bavendi, il a quant à lui révolutionné les méthodes de fabrication de ces fameuses boîtes quantiques. C'est à lui que l'on doit leur qualité aujourd'hui extrêmement élevée, une condition indispensable pour leur utilisation dans le domaine des nanotechnologies. Alors, tout ça ne nous dit pas ce que c'est, mais parce que comme vous êtes patient et que vous savez que je vais vous expliquer ce que c'est, il suffit voilà, d'être assez attentif. Pour comprendre l'importance fondamentale de la contribution de ces trois lauréats, il faut remonter à la fin des années 1930, donc il y a à peu près un siècle. Un physicien avait alors avancé une théorie selon laquelle les nanoparticules ne se comporteraient pas comme les autres, une question de manque d'espace pour leurs électrons, avec pour conséquence des changements radicaux dans leurs propriétés. Il y a les mathématiques qui ont permis de pouvoir prédire un petit peu ces effets qu'on appelait les effets quantiques. Et pour le vérifier, il fallait essayer de construire ces objets. Et donc, on a fallu attendre les années 1970, donc 40 ans après, pour que des physiciens commencent à parvenir à la fabrication de ces objets. Ils ont pu valider les prédictions de la théorie. Donc, en clair, il y a eu la théorie, après on a fait la pratique, et la pratique a corroboré ce qui avait été au niveau des hypothèses, sans pour autant envisager de lui trouver des applications pratiques. Tant les technologies de production étaient vraiment très difficiles, nous sommes dans les années 1970, on ne maîtrise encore pas bien précisément ce phénomène. Et c'est donc en 1981 qu'Alexei Ekimov entre en scène. Le jeune chercheur ne s'intéressait pas forcément à la théorie des boîtes quantiques. Il s'étonnait simplement qu'une même substance puisse permettre de produire des verres de couleurs différentes. Alors ça pouvait être jaune, ça pouvait être rouge. Et donc il a mené quelques expériences. Il a sondé quelques échantillons qu'il avait sous des rayons X. Et il a observé que des cristaux se formaient dans les verres, des cristaux dont la taille dépendait du processus de fabrication, c'est-à-dire la température qu'on avait utilisée, la durée de chauffage. Et on voyait donc une différence marquée dans la façon dont les vers absorbaient la lumière. Et donc, du coup, réfléchissaient la lumière et donnaient une couleur différente à ce vers selon le processus de fabrication. Et donc, comme c'est un bon physicien, Ekimov, eh bien, il a vite compris qu'il venait d'observer ce qu'on appelait un effet quantique dépendant de la taille de ces nanoparticules mises en jeu dans le vers. Et donc, pour augmenter les chances de déclencher des réactions chimiques en utilisant la lumière du soleil, eh bien Louis Bruce, 2 ans après, de son côté, il cherche à réduire la taille des particules qu'il mettait dans ses solutions. Et c'est un peu par hasard qu'il a observé un changement de propriété optique. Lui, il a abandonné des particules sur sa paillasse, comme ça, et après il est parti se balader, il revient. Et ça leur a permis de changer un petit peu leur structure. Il y a des moments où la découverte de la science se fait d'une façon totalement imprévue et fortuite, et c'est tant mieux. La science a donc pu avancer dans les années 80 sur ces modèles-là. Et le troisième, Munji Bavendi, c'est 10 ans après, donc on est dans les années 90, qui a pu permettre d'avoir trouvé un dispositif permettant de produire ces boîtes quantiques d'une façon répétée et efficace. Et donc, tous trois ont été récompensés. Alors, à quoi ça sert tout ça, parce que ce qui est important aussi pour le prix Nobel, c'est de pouvoir comprendre les applications qu'il peut y avoir. Les chercheurs ont principalement utilisé les boîtes quantiques pour produire ce qu'on appelle de la lumière colorée. Et notamment, on a les écrans qu'on appelle les QLED. Le Q pour le terme de quantique, ça peut être utilisé. En médecine, les médecins étudie les capacités des boîtes quantiques à suivre les tissus tumoraux dans le corps, donc ça leur permet d'avoir des descriptions et un suivi des cancers. Les chimistes, eux, ils exploitent leurs propriétés catalytiques pour essayer de piloter des réactions chimiques un petit peu variées, et là aussi il y a des applications assez intéressantes. Et enfin, on a également, grâce à ces boîtes quantiques, le développement d'une électronique flexible et aussi de cellules photovoltaïques, donc des panneaux solaires, qui vont être plus minces que ce qui existait jusqu'à maintenant et qui va permettre justement d'avoir une efficacité en termes de production d'énergie à base de soleil, une efficacité renforcée, augmentée bien évidemment. Donc c'est tout l'intérêt de ce prix Nobel. Voilà, c'était un peu compliqué, j'en suis désolé, mais bon, c'est un exercice qui est impératif tous les ans. On parle des prix Nobel et donc il y a des prix Nobel où, par le média radio, c'est assez ardu, évidemment. Alors, ce qui était intéressant, c'est que, en général, les prix Nobel, c'est des choses bien huilées. Donc, voilà, il y a des attributions, il y a des proclamations, il y a des cérémonies. C'est un peu cafouillé pour le prix Nobel de chimie cette semaine, parce que il y a un courriel qui a été envoyé aux journalistes dès le début du mois de septembre pour les inviter à l'annonce officielle pour le calendrier de la remise des prix. Donc, on sait qu'il y a une remise un par jour et que c'est à 11h45. Mais mercredi, donc cette semaine, au matin, il y a un bug qui a tout fait dérailler parce que la présentation des lauréats du prix Nobel de chimie était prévue à 11h45 en direct de l'Académie royale des sciences à Stockholm. Et les rédactions suédoises, elles ont commencé à s'affoler un peu après 7h30 du matin, parce qu'il y a plusieurs journalistes qui venaient de recevoir un communiqué qui annonçait justement que ce prix Nobel de chimie avait été attribué à ces 3 chercheurs qu'on vient d'évoquer. Et donc, du coup, il y a eu un bug, et c'est assez intéressant parce que j'aime bien ce côté hyper, hyper rigide de la cérémonie des prix Nobel, et en fait, il y a quelqu'un qui a appuyé sur un bouton.
Oups, le stagiaire,
et le mail est parti tôt le matin. Ça a un peu perturbé cette semaine les prix Nobel, comme quoi ils sont perturbés pour pas grand chose.
Oui. Mais je te remercie parce que du coup, là, ça a permis quand même de vraiment vulgariser ce prix Nobel de chimie. C'est pas simple.
Mais non, c'est pas simple.
Et de donner un peu plus.
On aurait voulu, quand on parle de couleur, on aurait voulu visuellement, oui, je pense que ça aurait été beaucoup plus
exactement
intéressant.
Exactement.
Par le biais de la voix et de la radio, c'est pas simple. Il nous reste un peu plus de 4 minutes pour finir les IG Nobel. Tu en as
toujours, bien sûr, j'en ai encore sous le coude. On peut parler de celui de la santé publique.
Oui, j'aime bien celui-là.
Il est bien celui-là qui revient à Songmin Park pour avoir inventé des toilettes capables de surveiller et d'analyser rapidement les substances excrétées par les humains. Alors, on sait que pendant la crise du Covid, on a été beaucoup à se plaindre de cet écouvillon qui nous rentrait profondément dans le nez. C'était vraiment un test désagréable. Eh bien, dans le but de remédier à cela, ce chercheur, justement, il s'est dit voilà comment rendre certains examens plus confortables pour l'homme. Il est instructeur au département d'urologie de la faculté de médecine de l'université de Stanford et donc il a inventé des toilettes capables d'analyser des échantillons d'urine et de sel pour générer des rapports de santé personnalisés. Donc ça veut dire que du coup, il suffit d'aller aux toilettes, voilà, pas de prélèvement, pas de choses compliquées à faire et on a tout de suite les analyses. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Donc peut-être à installer dans des laboratoires d'analyse ces toilettes pour permettre de facilement peut-être détecter. On pense aux prélèvements notamment qu'il faut faire pour la détection du cancer du côlon.
Voilà. Oui, bien sûr.
Ça peut notamment servir, même pour d'autres choses, parce qu'évidemment, on peut analyser, enfin, on peut, j'allais dire, on a souvent de nombreux tests, je vais y arriver, ça me perturbe ce sujet, à faire où il faut des prélèvements d'urine, un peu moins des prélèvements de sel, mais c'est quand même quelque chose de courant.
Le prix en nutrition, tu l'as ?
Ah, je ne l'ai pas, vas-y.
Alors, ce sont des scientifiques japonais qui ont tenté de stimuler les papilles gustatives à l'aide d'un courant électrique. Et donc, ils ont découvert que le fait d'électriser des baguettes ou une paille pouvait altérer le goût des aliments qui sont perçus par notre langue. Mmh. Et l'un des chercheurs compare l'expérience gustative à la sensation de lécher une pile de 9 volts.
Mais tu vois, finalement, peut-être quelque chose à proposer à nos chercheurs, à nos géologues.
Alors, évidemment, on se dit, mais à quoi ça sert ? Et en fait, l'application, oui. Je trouve qu'elle est intéressante, parce qu'il y a un chercheur qui explique pendant la cérémonie, parce qu'il y a une cérémonie aussi des prix IG Nobel, il explique que cette découverte, on va dire, rehausse le goût des plats faibles en sodium. Et donc l'idée, c'est de poindre l'espoir de pouvoir réduire la quantité de sel dans nos repas sans réduire le goût du sel. Et donc, quelque part, ouais. Ça peut être intéressant, l'application.
Ouais, ouais, ouais.
Et on termine par le prix en psychologie, tu l'as ?
Alors, je l'ai, celui-là, puisque du coup, j'ai été étonnée au départ, mais il revient en fait à Stanley Milgram. Donc là, je me suis dit, mais ils se sont trompés, puisqu'on sait qu'il est décédé dans les années 80. Et en fait, c'est un retour sur une expérience qui visait à déterminer combien de passants s'arrêtent pour regarder vers le haut si d'autres personnes regardent elles-mêmes vers le haut. On connaît hein, ça nous est tous arrivé de... Voilà, on voit des gens qui sont arrêtés, on s'arrête nous aussi. Donc, Milgram, il a été renommé pour son expérience sur l'obéissance et l'autorité, on en a déjà parlé dans l'émission, mais en fait en 1969, il avait dirigé une étude moins controversée sur la formation des foules et il avait examiné le pouvoir d'attraction de foules de différentes tailles. Pour ça, il avait utilisé un tronçon de trottoir très fréquenté à New York comme laboratoire. Donc, lorsqu'un signal était donné depuis la fenêtre du 6e étage d'un immeuble de l'autre côté de la rue, une foule de relance, donc elle était composée d'un nombre de personnes qui pouvaient varier entre 1 et 15, entraient dans la zone d'observation, s'arrêtaient, regardaient par la fenêtre pendant une minute, puis se dispersaient. L'expérience avait été répétée plusieurs fois et filmée. Le but était de déterminer combien de piétons passant par là modifiaient leur comportement en réponse, soit en s'arrêtant et en levant les yeux, soit en levant les yeux sans interrompre leur pas. Donc si une seule personne levait les yeux, seulement 4% des passants s'arrêtaient pour lever également les yeux. En revanche, 40% de ces passants s'arrêtaient lorsque la foule de relance, donc qui était dirigée, hein, comptait 15 personnes. Il en était de même pour les passants qui levaient les yeux sans s'arrêter. 42% levaient le regard si la foule de relance était constituée d'une seule personne, contre 86% lorsqu'il y avait 15 personnes dans la foule. Et donc à l'époque, ces résultats, ils étaient contraires à un modèle existant, supposant que le nombre de personnes disponibles pour rejoindre un groupe, donc là on parle de piétons, est le facteur critique et non la taille de la foule de stimulation. Et donc en réalité, il est ressorti de ces analyses que c'est la taille de la foule qui était le stimulus, qui était le facteur clé en fait, faire interagir, modifier le comportement en fait des autres passants.
Il est bientôt 13h, c'est la fin de cette édition. Merci Carole pour cette
merci
émission bien complète. Hein.
Oui, bah, très dense avec l'actualité.
Voilà, l'actualité était assez dense, donc on en a profité pour vous parler de tout ce qu'on a pu. C'est la fête de la science qui démarre déjà ce week-end, donc n'hésitez pas à vous rendre dans les différents lieux qui participent à cette manifestation. Nous serons, nous, en direct samedi prochain à 14h, en direct sur l'antenne de Graphite pour la fête de la science de l'Université Technologie de Compiègne de l'ESCOM. L'UTC ouvre ses portes dès jeudi. Tous les renseignements, bien sûr, sur le site de l'UTC.fr. Et donc, du coup, samedi prochain, on se retrouve pour une émission alors à 14h, hein, une heure un peu particulière pour cette spéciale de biotine et non pas midi. Je te fais des infidélités, Carole.
Je sais.
Je sais. Hein, je suis désolé parce que je retrouve Peggy samedi prochain pour cette émission. C'est notre émission à hein, Peggy et à moi.
Sais, c'est
tous
votre
les
émission.
Ans, c'est notre émission à nous. Et donc, du coup, on sera 2 heures en direct pour vous présenter ce programme encore très riche de la fête de la science. On se retrouve, Carole. Dans 15
semaines.
Jours, oui. Bien sûr, sur l'antenne de Graphite, avec pas mal d'actualités scientifiques. On parlera notamment, parce que nous sommes au mois d'octobre rose, et pas mal d'informations concernant le cancer du du sein, où voilà, il y a pas mal aussi de sensibilisation, mais aussi de découverte. Ce sera l'une des thématiques de l'émission dans 15 jours sur l'antenne de Graphite. Merci Carole.
Merci.
Bonne journée. À bientôt. Au revoir.